Beurre FM, 18h-19h, Time Food Special Game, avec Bilal Nedman, sur Beurre FM, numéro 1 sur le foot africain.
Bonsoir à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de Time Foot Special Cannes 2019 sur l'antenne de Beurre FM. Nous sommes le mardi 2 juillet. On accueille ce soir un invité de marque, Narcisse Abada, ancien international camerounais. Avec vous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM, vous restez connectés tout au long de cette émission. Vous pouvez nous appeler avec vos consultants, le 01 53 48 3000 pour réagir avec eux et le hashtag TamFoot sur la Twittosphère pour justement commenter l'actualité du ballon rond. Au menu de cette émission, Messi qui peste contre les pelouses de la Copa América qui se déroule en ce moment même au Brésil. On fera un point sur la fameuse Coupe d'Afrique des Nations 2019, comme d'habitude. Mais aussi, on verra de près le Sénégal qui souffle sur le Kenya. Et on terminera avec le combat Javier Tebas et Neymar en Liga. C'est parti, go go Time Foot.
Time Foot, spécial cash. Time Sport.
Et ce soir, sur le plateau, pour m'accompagner, on aura Yacine Bouali, mais aussi Saliou Diouf. Comment ça va, Saliou?
Salut camarade, en pleine forme, hein, tout va bien, il fait beau, les temps commencent.
Ça va, la chaleur, c'est un peu baissé.
Il y a du football, ce soir, il y a un formidable Brésil-Argentine.
Pour ceux qui veillent un petit peu,
2h30 du matin, pour les plus courageux d'entre eux.
Ils vont rester éveillés.
Oui, ils vont rester éveillés.
C'est les vacances.
Voilà, formidable, donc bientôt... les prochaines poules, enfin tous les qualifiés pour la suite de la compétition de la Coupe d'Afrique, donc tout va bien.
Rudy Kazi sera aussi avec nous dans cette émission et Bruno Aoyo que nous accueillons. Comment ça va Bruno?
Salut Bilal, salut à tous, ravi d'être là.
Ravi. Et aussi sous...
Qu'est-ce que t'as fait Adil Rami là?
Moi j'ai rien fait Adil Rami, justement on verra bien notre pauvre Adil du côté de la cité phocéenne. Mais en ce moment même, le Bénin, Bruno, il joue bien en ce moment, c'est bien ça, le Bénin?
Absolument.
Un match.
Premier
match de 18h.
Bénin avec Jodel Dossou.
Ouais, et aussi on aura la Guinée-Bissau contre le Ghana. Hein, et le match a bel et bien commencé. C'est parti, nous on commence cette émission de Time Sport spéciale Coupe d'Afrique.
Time Foot. Spécial Cannes, le ras-le-bol.
Eh oui, avant le ras-le-bol, justement, quelques infos à balancer pour tous les auditrices et les auditeurs de Beurre FM. Adrien Rabiot s'est engagé ce lundi soir avec la Juventus de Turin, la vieille dame qui le suivait de près et le voulait depuis plusieurs années. Adil Rami peut être viré, mais c'est pas encore. Ciblé par une procédure disciplinaire, le défenseur central de l'Olympique de Marseille n'a pas participé à la reprise de l'entraînement hier matin. Transfert aussi avec Gianluigi Buffon, tout proche de la vieille dame, dans la vallée du Piémonte. Reste à voir, pas sûr encore.
L'accord a été trouvé apparemment pour Buffon, et donc il deviendrait, puisqu'il n'était pas avant, la doublure de Chesney, pour prononcer correctement, le gardien polonais. Et pour ce qui est d'Adil Rami, en fait, pour apporter un peu d'eau à ton moulin, on lui reprocherait trois choses. Premièrement, c'est une absence à un entraînement, c'était le 20 mai, il me semble. Et il participait à ce moment-là à Fort Boyard.
C'est ça.
Et il aurait
Et on voit le fan de Fort Boyard, vous l'avez reconnu.
Son entraîneur, Rudy Garcia, en lui disant qu'il participait justement à cette émission-là et qu'il allait être absent. Et ça, l'accord a été donné par Rudy Garcia. La deuxième chose qu'on lui reproche, c'est son absence lors du dernier match dans les tribunes du Vélodrome contre Montpellier. Il était pendant ce temps-là au Grand Prix de Monaco avec Pamela Anderson. La troisième chose aussi qu'on lui reproche potentiellement, bien sûr.
Et c'est quoi?
Je sors des guillemets. C'est un clash, en fait. C'est une embrouille avec des supporters qui gèrent le site Le Phocéen. Parce qu'en fait, ils avaient fait un sondage avec
du Phocéen, oui.
Exactement. Quel joueur devrait partir à la fin de la saison? Enfin, qui il faut dégager pour employer les termes? Et il est arrivé en tête. Et du coup, lui, il avait répondu sur Instagram, pour pas citer le nom de l'application, avec un bonhomme qui est en train d'uriner en fait sur le sondage. Voilà, très élégant. Mais voilà, ensuite, c'est ce qu'on lui reproche. Donc, il est interdit de commanderie jusqu'au 9 juillet. Puis ensuite, il sera convoqué pour un entretien préalable au licenciement.
On suivra de près justement cette peut-être sanction ou même
ce licenciement.
La suite d'Adil Rami sur les
en fait, numéro 2.
Couleurs olympiennes.
Parce que c'est très rare des joueurs qui sont licenciés. Il y a Dorasso qui a été licencié. Il y a Bedimo, plus récemment, mais c'est des cas très très rares dans le milieu du foot, donc
pas faux.
Voilà,
ça suit. Messi qui pèse contre les pelouses de la Copa, selon lui, ce n'est pas une excuse, mais cela me coûte de jouer vu l'état des terrains. C'est une honte. A balancé la Pulga en zone mixte après la rencontre et la victoire aux dépens du Venezuela, on le rappelle, 2-0. N'est-ce pas une excuse du capitaine de l'Abi Céleste qui n'est pas au mieux dans cette compétition avec notamment un seul but inscrit? Et je vais donner la parole, et pour la première fois, il est sur l'antenne de Beurre FM, à notre invité de ce soir, qui n'est autre que Narcisse Abada, ancien international camerounais et de football. Comment ça va? Oui, ça va. Oui, très bien. Vous en pensez quoi, justement, Narcisse, sur le cas de Léo Messi et ses pelouses? D'habitude, on parle beaucoup de nos pelouses africaines. Là, non, on parle des pelouses sud-américaines.
Qu'on accuse quelque chose, ben là je pense que Lionel Messi, il sait qu'il a tout à jouer pour cette compétition, et ce qui ne sera pas facile parce que pour lui ça risque d'être la dernière avec son pays, et du coup s'il ne la remporte pas, ça sera un peu chose difficile. Ben il faut toujours chercher, comme on dit toujours, un bouc émissaire pour justement pouvoir voilà quoi.
Ouais. En plus, ça pose problème.
Mais c'est intéressant ce que dit Narcisse, ouais. Parce qu'en fait, on a l'impression que justement Léo Messi prend de l'avance, en fait, prend justement, anticipe la fessée qui risque de se prendre.
Ah, mais toi, non,
face au Brésil.
Là, là, là. Voilà, les souris en Narcisse en plus.
Non, mais ouais. c'est possible.
Notre invité,
Abada. Une excuse, ouais. Parce qu'il part clairement ouais, pas favori. Dans ce match.
Mais ça fait effet. Ça aujourd'hui, on a de belles pelouses voilà. Là sur cette canne ça, en Égypte. A... Et des fois, ça fait effet, tu le sais bien.
Non, mais le gars se projette ouais. En fait pour l'après-match, pour ensuite dire qui bon, on n'était pas dans des conditions optimales, surtout moi qui est un joueur. Voilà, qui
ah, Messi n'a pas besoin de ça, Narcisse quand même. Il n'a pas besoin de ça, Messi.
Il n'a pas besoin de ça, mais
c'est une excuse.
C'est
Messi quand même.
Le Brésil a tout à jouer. Le Brésil a raté sa Coupe du Monde à la maison. Et ils ne peuvent pas se permettre de rater cette Copa América. Et chez eux, encore. Donc, du coup, ils ont tout à jouer. Ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas accepter. Et surtout l'Argentine, que ouais. L'Argentine les gagne à la maison.
Ah, ouais, ça, c'est sûr. Comme l'Uruguay l'avait fait en 52. Ouais, on donne la parole à Rudy Casier, notre consultant.
Ouais, non, mais de toute façon, le contexte, quand même, c'est t'as le Brésil en face, sachant que le Brésil joue chez lui. Donc, on connaît la dimension émotive au plus haut point des Brésiliens, déjà d'un point de vue culturel, et en plus ce foot qui fait tenir en haleine tout un pays, avec effectivement la dimension revancharde de voir enfin la nation gagner au moins un titre, même si ce sera sans Neymar. Donc il y a une pression encore plus grande sur l'équipe, et le Brésil va pas vouloir rater ce match. En plus, c'est l'occasion aussi de rajouter quelques galons en allant taper l'Argentine de Messi. Donc c'est sûr que l'Argentine est en mauvaise posture, déjà parce qu'ils démarrent mal leur compétition, et en plus ouais. Parce que leur emblème Messi n'a marqué aucun un seul but et aucune passe décisive, alors que c'est plutôt son rôle de faire jouer l'équipe, quoi. Moi j'ai une image en tête que j'ai vue dans les réseaux sociaux il y a pas longtemps, où tu vois en fait une phase de jeu où tu vois Messi qui est derrière toute l'attaque. Donc, je sais plus c'était quel match, mais en gros, c'est comme s'il partait de la défense. Et tu vois un seul joueur au loin, plus loin au niveau de l'attaque. Donc, encore une fois, tu as l'impression que toute l'équipe joue pour lui. Mais en fait, elle se remet complètement sur lui. Elle oublie même de jouer, en fait. Donc, à chaque fois, on se dit, il y a un problème
ouais,
de talent.
Ça peut poser problème,
je pense
ouais.
Pas. Moi, je pense qu'il y a un problème de mentalité. On attend tout de Messi. Et Messi, c'est un leader technique. C'est pas forcément c'est pas un leader charismatique, en ouais. Fait, à la différence d'un Maradona.
Ah. Oui, mais moi, de toute façon, cette équipe.
Alors, bueno.
Cette équipe d'Argentine sur cette Copa América, moi, elle me satisfait pas. Elle m'impressionne pas du tout. Pour moi, le seul vrai joueur que j'aime bien dans cette équipe d'Argentine actuellement, c'est Rodrigo De Paul, le joueur de l'Udinese, qui
très bon.
Qui est une ouais. Vraie révélation pour moi. Mais autrement, ils font pas une grande Copa. Donc, enfin, chercher des excuses comme ça, ça ressemble pas, en tout cas, ouais. au comportement du meilleur joueur du monde. Mais après, là où je suis un peu surpris, c'est que ce match se déroule à Belo Horizonte. Là où le Brésil a subi sa fameuse défaite 7-1 en demi-finale il y a 5 ans. Donc,
mauvais présage, tu penses?
Je pense que les Argentins aussi doivent jouer là-dessus. Peut-être que si un but argentin tombe vite, les Brésiliens peuvent commencer à paniquer.
Ouais, ça dure en plus parce que le traumatisme.
La panique des Brésiliens.
7-1, ouais. 2014, 2019, il est encore présent et encore très très présent. Mais après, Messi à sa décharge, il les a foulés les pelouses. Donc il sait de quoi il parle. Si elles sont dans un mauvais état, elles sont dans un mauvais état, certes, mais c'est le seul à s'en plaindre. Donc c'est ça en fait le problème.
C'est bizarre qu'ils s'en plaignent. Tu vois, Messi, c'est pas quelqu'un qui se plaint actuellement.
Il est un peu discret, il parle pas, mais il est sérieux quand même. On a l'impression qu'il est un peu dépassé en fait de par.
Il en a marre. Il y a une frustration peut-être. C'est ça. C'est bizarre.
C'est le fait que cette équipe justement, elle soit pas à la hauteur autour de lui. Il a pas l'habitude de ça. Là, il est clairement dans l'adversité, le garçon.
Mais est-ce qu'il surjoue pas son rôle de capitaine? Parce que même là, je trouve qu'il parle beaucoup. Même c'est même repris dans certaines presses. On n'a pas l'habitude de voir Messi autant s'exprimer. T'as l'impression qu'il veut vraiment montrer au pays qu'il peut, tu vois, en fait, c'est-à-dire sortir même en fait de sa personnalité habituelle. Moi, je trouve que c'est surjoué parce que Messi, c'est quelqu'un qui exprime sa personnalité sur le terrain, tu vois. Et exactement. Si sur le terrain, il se plaint des qualités du terrain et qu'en dehors, il essaie de surjouer ses qualités d'homme, là on retrouve pas le vrai Messi. Je pense que c'est caractériel de ce qui va se passer sur le reste de la compétition.
Hein. Justement, c'est aussi une façon de mettre la pression aussi sur ses coéquipiers, sur. C'est un ensemble, je pense.
De toute façon, il a toujours.
Alors Narcisse.
La pression sur ses coéquipiers, ça n'a jamais donné. Moi, je pense que
sur ses coéquipiers, sur la fédération, je m'en vais.
Il pouvait être raisonnable. Messi.
Mais il reste Messi quand même. C'est un grand joueur.
Un grand joueur avec le Barça, ça se voit.
Il y a une belle génération aussi en Argentine.
Il y a une belle génération. Il y a eu tant de joueurs. Il y a eu des Mascherano. Il y a eu tout le monde. Ça n'a jamais rien donné. On ne va pas toujours dire qu'est-ce qu'on va se dire en Coupe du Monde. C'était aussi les terrains. Non, c'était pas les terrains. Donc voilà.
Il y a un côté un petit peu pro-Real chez Monsieur, on dit.
Ouais, mais bon. Là, c'est justement le joueur dit. Je cite, la conduite de balle est impossible. Le ballon se comporte comme un lapin. C'est tout. De même incroyable que dans un tournoi comme celui-ci, les terrains soient si mauvais. C'est très difficile d'y jouer pour ceux qui veulent attaquer. Il y a très peu d'espace, beaucoup de joueurs se concentrent au milieu de terrain. Mais c'est comme ça.
Mais toutes les équipes de la compétition,
on voit que il met en avant deux problèmes. Il met en avant la qualité de la pelouse et l'aspect archi défensif. Ce truc archi défensif, l'Afrique du Sud, l'Amérique du Sud. D'ailleurs, analogie assez intéressante parce que souvent on critique le football africain trop physique. Il y a une dimension physique dans le foot africain, dans le foot sud-américain. Ouais. Où certaines nations qui sont pas réputées être des nations d'esthètes ont souvent tendance à plutôt pallier sur leur capacité physique et même tactico-physique et lui il s'en plaint de quoi, il connaît ça, même le foot argentin c'est un foot physique dans le championnat
Sûr, que ce soit le foot argentin, le foot brésilien, c'est tous les championnats. Tu regardes la Copa Libertadores, c'est ce que tu constates en premier.
Comme on dit toujours, toute vérité, il y a toujours deux personnes, il y a toujours des témoins, et bien il est le seul à s'en plaindre. Bon, on ne va pas dire que tout le monde, il y a aussi des grands joueurs dans cette compétition, mais personne ne se plaint de la pelouse, je ne sais pas.
Moi, de toute façon, moi je vous le dis honnêtement, toi, le Brésil-Argentine, je ne le regarde pas.
Tu ne vas pas le regarder, on le sait bien.
C'est la Coupe
d'Afrique
des Nations. C'est
plutôt le Bénin.
Qu'ils fassent leur compétition. Et
justement, Bénin-Cameroun, le score, Bruno. Bénin-Cameroun, le match de 18h. Toujours 0-0. C'est bien ça.
0-0, qu'ils fassent leur compétition entre eux, la compétition phare.
Il fait bien de le dire. Il fait bien. L'Afrique est au rendez-vous. On est sur BFM, mais il faut le faire, justement. Guinée-Bissau aussi, Ghana 0-0.
0-0, 13e minute, toujours. Et puis, on a l'impression que c'est le Ghana qui attaque. Sur le but adverse et qui domine ce match.
On n'entend pas parler des pelouses. Merci Sabada. De la pelouse, notamment sur cette édition 2019 de la CAN en Égypte. Magnifique les stades. Un peu moins remplis certaines fois.
Magnifique sur le terrain.
À
l'horizon.
C'est vrai que c'est dur quand on voit une compétition comme celle-là, les terrains sont vides et on remarque peut-être quand l'Égypte joue, l'Algérie, c'est pas le Maroc, les terrains sont pleins, franchement c'est pas beau à voir.
C'est dommage. On aurait voulu, pourquoi pas, que ça se passe au Maroc. On aurait beaucoup plus d'Européens aussi. Il y a plus de facilité aussi pour regagner le Maroc, notamment avec les diasporas à travers en France ou dans les pays européens. Pour y aller, c'est bien dommage. Bruno.
La CAN, ça, c'est jamais. Les stades sont jamais pleins quand c'est pas le pays organisateur. C'est comme ça.
Après, on avait évoqué un problème. Tu te rappelles
Bien sûr.
Parce que bon, à part finalement, ça revient au même de. Est-ce que ça sert vraiment de donner, même si on donne les places à la population locale, de toute façon, ils vont se déplacer que pour les équipes qui les intéressent. Donc voilà. Mais là, je vois le match Cameroun-Bénin. Là, je trouve que ça va. C'est pas. Je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes, qu'il y a beaucoup de Béninois. On s'est quand même déplacé alors que c'est pas la porte à côté. Donc peut-être que ça va commencer à changer avec une CAN à 24.
Ah bah bravo quoi.
Il y a un truc aussi qui est assez marrant, c'est la corrélation qu'on peut faire. C'est-à-dire qu'il y a deux équipes, deux sélections dans cette CAN avec les supporters très bien représentés. Donc l'Égypte, nation phare, qui accueille avec les supporters très festifs, très joyeux. Et l'Algérie. L'Algérie, avec ses supporters qui sont sur place et qui font un boucan pas possible.
Il y a DJ Kim qui est sur place, hein, faut rappeler. Ouais, il est sur place.
Il a de la chance.
D'ailleurs, ça serait pas mal de l'avoir, DJ Kim, par téléphone, de lui téléphoner.
Du coup, ça se régale énormément. Et ce qui est sympa, c'est que c'est les équipes qui font le plus beau football pour l'instant, les deux équipes, Algérie et Égypte.
Ouais, Égypte, il paraît si on enlève Trezeguet et Égypte. Mohamed Salah.
C'est flamboyant, c'est spectaculaire.
Tu vois
le Sénégal aussi, pas mal. 3-0 hier,
non, le Sénégal,
l'Algérie pour Udi.
C'est un super début. De toute façon, c'est l'Algérie.
Grande nation, le Cameroun aussi.
L'Algérie et le Maroc, ce sont les deux équipes qui ont enregistré le plus de victoires et qui ont encaissé le moins
flamboyant. Maroc, c'est pas flamboyant. Tu regardes le premier match, tu t'ennuies à mourir. On dit que l'Algérie, tu te régales.
L'Algérie pour toi,
ça joue mieux, mais après, au niveau des résultats, le Maroc, ils font un sans faute.
L'Égypte aussi.
Ouais, mais l'Égypte, ils ont encaissé un but, je crois, non ?
Oui, mais.
Algérie, meilleure attaque, meilleure défense, il paraît. C'est vrai, ça, Sadio ? Algérie, meilleure attaque, meilleure défense.
C'est pas mal.
On s'y attendait pas. Du coup, ils sont favoris pour la compétition.
C'est pas faux. Vous restez avec nous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. On est toujours en compagnie de Narcisse Abada, ancien international camerounais. On reviendra justement sur cette fameuse Coupe d'Afrique des Nations. À de suite.
Time Foot Spécial Can. Reviens dans un instant. Time Foot Spécial Can. Avec Bilal Nenman.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, 18h-19h, l'émission Time Foot Spécial Coupe d'Afrique des Nations 2019. On a été rejoint par Yacine Bouali. Comment ça va, Yacine?
Ah, Bilal, mon ami.
Ouais. En mode beau gosse. Ça va très très bien. 3-0, c'est ça, contre la Tanzanie. Hier, tu étais sur les Champs-Élysées, tu as défilé. C'est pas bien.
Même pas, moi,
à cause de toi, j'ai quitté la rédaction. Il était 2h du matin.
Tout seul, mon cher Bilal.
Ouais, là.
En tout cas, Belmadi, si tu m'écoutes, bravo, mon cher
Belmadi, le sélectionneur des Fenech, homme fort. Pour le moment de cette Coupe d'Afrique des Nations, je le rappelle, avec nous autour de la table pour m'accompagner, il y a Sadio Diouf, Bruno Aouyo et Rudy Kazir. Sans oublier notre invité de marque, Narcisse Abada, ancien international camerounais de football. Et justement, place à notre invité ce soir.
Time Foot, spécial cash.
On revient à vous, Narcisse, justement, parce que nombre d'auditeurs et aussi d'aficionados et supporters de la sélection du Cameroun, excusez-moi, me demandent justement des infos concernant votre actualité depuis que vous avez raccroché les crampons. Aujourd'hui, Narcisse Abada, il fait quoi ?
Aujourd'hui, Narcisse Abada, il est éducateur.
Ouais.
Éducateur dans le club Paris FC, Paris Vieille Poste. Donc, je m'occupe des U15. Je suis adjoint des seniors et responsable U10 également.
Les nouvelles générations comparées à votre génération, ouais. L'évolution est-elle parfaite ou il y a encore, vous préférez plutôt il y a 15 ans, voire 10 ans en arrière ?
C'est
important.
La génération de maintenant, ils ont tellement d'opportunités qu'ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils ont. Ils foulent tout ce qu'ils ont au pied, alors que nous, à notre époque, on n'en avait pas tout cela. Moi, je viens du Cameroun. Je sais dans quelles conditions on s'entraînait, où tu peux peut-être marcher 5 ou 6 kilomètres à pied, tu vas t'entraîner, tu rentres, tu n'as rien à manger, mais tu ne renonces pas, tu pars à nouveau le lendemain. Et là, maintenant, la génération de maintenant, ils ont tout, mais...
À portée, quoi.
Ah oui,
c'est ça. Un peu trop facile, peut-être.
Ouais.
Yacine Bouali, réaction pour Narcisse Abada. D'accord, peut-être avec lui face à cette...
Narcisse, vous aviez exactement 4 sélections, c'est ça ?
Ouais.
Et vous avez arrêté depuis 2012.
Oui, 2012, ouais.
Vous étiez en Suisse, c'est ça ?
En Suisse, ouais.
Ouais, c'est un globe trotteur, justement.
Il a fait plusieurs pays. Il était au
Malte, Suisse.
C'est ça aussi.
Oui, Ibanian, oui.
Et là, c'est-à-dire, est-ce que vous, avec le recul aujourd'hui, vous pensez avoir fait la carrière que dont vous avez toujours rêvé?
Non, j'ai pas fait la carrière dont j'ai toujours rêvé parce que j'ai pas eu des opportunités comme d'autres en ont eu. Moi, je me rappelle par exemple quand je suis arrivé ici en France, j'ai eu ces soucis que la majorité des Africains ont, où je me suis retrouvé dans une situation irrégulière.
Voilà,
donc du coup, ça a été difficile. C'est pour cela que vous allez remarquer.
Et justement, Narcisse, comment s'est faite votre arrivée en France? Par l'intermédiaire de qui? Est-ce qu'il y a eu des promesses derrière? Est-ce que c'est des agents qui vous ont ramené? Est-ce que, hein, ça c'est très important parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent derrière et croient que c'est facile de faire une carrière de footballeur.
Ouais.
Et souvent, surtout sur notre continent, continent africain, et des jeunes arrivent complètement après abandonnés, livrés à eux-mêmes. Donc c'est très, très, très.
On est arrivé en France, moi déjà j'étais marié et moi ma femme elle était volleyeuse internationale, professionnelle, elle jouait dans le club de Melun, elle était ici. Et moi, justement, après mon contrat à Hibernia, je suis venu ici et pendant cette période, j'étais blessé. Et justement, après la période où j'étais blessé, et c'est là où mon séjour était terminé. Et il fallait encore réactiver pour que, justement, ça m'a pris beaucoup de temps avant de revenir. C'est ce qui a fait que je suis arrivé ici en France. Après que la situation se soit régularisée, et je suis encore reparti en Suisse. Et après la Suisse, je suis revenu.
Ouais, salut.
Vous avez eu justement, quand vous êtes arrivé en France, des propositions d'essai, mais dans des clubs professionnels en France, sur tout le territoire.
Ouais.
C'était quel club?
Il y avait Valenciennes, il y avait Lille et Strasbourg.
D'accord, parce qu'en fait, ce qui est intéressant parfois, c'est que les clubs aussi se bougent pour permettre à des joueurs d'avoir une situation, d'avoir les papiers, quoi. Mmh. Et du coup, pourquoi ça s'est pas fait, justement? Parce qu'ils auraient pu vous aider aussi,
oui,
à ce moment-là.
Oui, justement, il y avait toujours un problème parce que. C'est vrai que moi, mon témoignage, il est assez particulier parce que je me retrouve blessé, j'ai pas eu de choc au genou ou quoi que ce soit. Mon genou a commencé à enfler seul, il y avait de l'eau à l'intérieur et du coup, ça m'a pris plus de six mois où on ne voyait rien, on a fait les radios, tout ce qu'il y a, l'IRM et tout, on ne voyait rien. Et du coup, c'est vraiment une situation qui m'a... Après, toujours au niveau où j'arrivais à forcer, mais je ne pouvais pas plus que ça parce que ça se voyait. Et du coup, ça a été vraiment difficile.
Mais avant d'arriver en France, est-ce que vous pensez que c'était, enfin même en Europe, est-ce que vous pensez que c'était facile de pouvoir percer pour... Parce qu'il y a un jeune Africain, peut-être avec beaucoup de talent, avec la tête pleine de rêves, et une fois, quand on est confronté à la réalité...
Oui, justement, parce que dans ce genre de truc, il faut vraiment avoir, une opportunité. Il faut être là au bon moment où il faut vraiment saisir cette occasion. Et du coup, on ne sait jamais comment saisir l'occasion. Moi, ce que j'ai eu, je n'ai pas eu trop de conseillers, même au Cameroun, moi, je n'en ai pas trop eu. Et moi, je comptais sur mon talent. International, capitaine des espoirs et tout, moi je comptais sur, et il y avait des recruteurs qui étaient venus un peu de partout, et moi je ne voulais que la France. Et du coup, cette période où on rate, justement, capitaine des espoirs, on rate d'aller aux Jeux Olympiques en 2004, et c'est là où tout a basculé, où maintenant il fallait absolument chercher à sortir du territoire parce que ce n'était pas facile. Je ne pouvais pas venir parce qu'il fallait, avec l'équipe nationale, il fallait que je sois un joueur local pour bien éventuellement garder le statut de capitaine des espoirs, parce que venir juste en Europe et se balader, j'allais perdre ce statut-là. Et du coup, cette période, ça a été très difficile.
C'est cette période qui vous a empêché de...
Le plus marqué, peut-être.
Oui, justement, c'est cette période qui m'a... Parce que si moi, j'avais eu un conseiller, j'avais eu... parce que les managers, c'était juste... les gens, ils venaient, tu signais avec lui. Ce n'était pas comme maintenant où on voit, par exemple, les contrats de médiation où quelqu'un peut venir, il faut absolument qu'il te trouve quelque chose et là, tu peux signer avec lui. Mais là, avant, c'était vraiment, tu signais avec un manager avant qu'il ne te cherche quelque chose. Et du coup, tu peux signer 2 ans. Si le manager ne fait rien... Toi, t'es là, t'étais bloqué.
Malheureusement.
Ils vous ont vendu du rêve quelque part.
Oui, bien sûr. On en vend beaucoup trop. Et même avant, on vendait beaucoup trop de rêves à ces jeunes joueurs. Merci Narcisse Abada pour ces mots. Oui, salut.
C'est intéressant en fait ce que dit Narcisse.
On enchaîne.
C'est, vous étiez à l'époque capitaine des espoirs. Donc, à ce titre-là, il y avait sûrement des coéquipiers qui étaient déjà en Europe, non ?
Bien sûr.
Il me semble.
Bien sûr.
Dans des clubs français, puisqu'il y a beaucoup de joueurs camerounais qui jouent en France.
Ah ouais.
Et justement, vous n'avez pas eu l'appui de ces joueurs-là pour vous conseiller dans des clubs et vous recommander entre guillemets. En disant que vous êtes un élément sûr, comme ça a pu se faire pour certains autres joueurs dans d'autres pays.
Vous savez, c'est un peu dur. Je vais vous prendre une anecdote.
Alors, dites-nous tout.
Parce que je me rappelle, le club d'Anderlecht était venu me superviser au Cameroun. C'était en jouant un match des espoirs contre la RDC. Il y a un ancien coach à moi qui est aujourd'hui, il a été, je pense, un éducateur Anderlecht. Lui, il m'appelle. Bon, mon téléphone sonne à la veille, il me dit...
Il est toujours éducateur.
Oui, il est toujours là-bas.
Il est au RVDM aujourd'hui, de Molenbeek. Je connais bien d'ailleurs.
Alors, il m'appelle, il me dit, ben voilà, tu as le directeur sportif et l'entraîneur d'Anderlecht qui vient demain au Cameroun, ils viennent te superviser. Ben, j'ai dit ok, il n'y a pas de souci, je suis là. Et là, ça a été le plus mauvais match de ma vie. j'ai jamais fait un mauvais match comme
à
ça.
La pression, quoi. Il y avait
trop de pression. Et avec trop de pression. Et ben, du coup, ils étaient intéressés par rapport à ce qu'ils voyaient avant. Mm. Ben, ils ont demandé à un de mes amis avec qui j'étais justement à l'équipe nationale espoir, ben, qu'est-ce qu'il en pense ? Ben, c'est lui qui m'a grillé.
Malheureusement, ça se passe beaucoup dans le monde du football. Il n'y a pas cette solidarité entre.
Et cet ami-là, il a fait une carrière ou pas ?
Ouais.
Une carrière respectable ?
Carrière respectable ou pas, ben après, s'il gagne mieux sa vie, ça va. Mais franchement, c'était dur. J'avais franchement de la peine à l'accepter parce que.
Et on vous comprend.
Je connaissais bien le mec. On était ensemble à l'équipe nationale espoir et tout. Je le connaissais bien. On attendait juste un mot de lui. Et lui, le problème, c'est que en Belgique. Il était bien en Belgique. Il jouait à Genk, il était bien.
Ouais.
Et justement, on attendait un seul mot de lui. Mais il n'est pas arrivé.
Nous, on aimerait avoir un mot, Yacine, avec notre invité Narcisse Abada, concernant cette Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule en Égypte. Quel est votre sentiment sur ce début de cette CAN?
Ouais, c'est un peu difficile parce que les joueurs ont fini les championnats et du coup il y a certains qui sont un peu saturés, on peut le voir au niveau et après le changement de climat et tout, on peut le voir saturé, mais je pense qu'au fil des journées, la Coupe d'Afrique commence un peu à prendre de l'ampleur. Il y a des équipes qui se détachent mieux que d'autres, mais comme on connaît la Coupe d'Afrique, c'est pas forcément les équipes qui jouent bien qui feront des bons résultats à la fin.
Ouais. Salut, rapide.
Il y a un consultant d'une radio concurrente qui disait il y a un an, la France ne pourra pas gagner la Coupe du Monde avec Olivier Giroud en pointe. Et moi, je pose la question. Est-ce que le Cameroun peut gagner la Coupe d'Afrique avec Choupo-Moting en pointe ?
Choupo-Moting est bien aimé quand même.
Olivier Giroud et Choupo-Moting, c'est pas le même style de jeu. Olivier Giroud, tu peux le mettre là, il va toujours fixer, il va faire le sale boulot pour les autres. Choupo-Moting, c'est pas la même chose. Choupo-Moting ne peut pas être un joueur qui va fixer. Lui, il va toujours dézoner. Ouais. Et quand vous avez un joueur qui dézone comme ça, il faut avoir justement les autres qui vont prendre de la profondeur. Du coup, s'il n'y a pas des joueurs qui prennent de la profondeur, c'est pas comment on l'appelle Toko Ekambi qui prend grave de la profondeur ou
pas
que ce soit. Et du coup, si des mecs, toute l'équipe se met à décrocher, il n'y aura pas de résultat devant.
Donc implicitement, vous nous dites que là, le Cameroun n'ira pas loin dans cette compétition.
Non.
Ils peuvent avoir d'autres ressources sur le terrain.
Mais après, Eric Maxi, de toute façon, dans cette équipe. Premier match contre la Guinée-Bissau, il a joué derrière l'attaquant. Là, il est aussi dans un rôle plus libre. Ça va plus dépendre de la forme de Karl Toko Ekambi et de Stéphane Bahoken, qui est titulaire ce soir contre le Bénin. Mais moi, je ne me fais pas spécialement de soucis pour le Cameroun. Ils ont un staff solide avec Kluivert et Seedorf, l'entraîneur en chef. Ouais. Et puis, ils ont quand même une solide culture de jeu et de la gagne. Ils sont tenants du titre d'entre eux. Donc, le Cameroun peut aller loin. Mais après, il y a l'Égypte grande favorite.
Et pourquoi juste l'Égypte grande favorite?
L'Égypte, les pharaons. Non,
c'est vrai que quand même,
la demi-jurée des Fennec de Yassine.
Le début de la CAN, le grand favori, c'est le Maroc.
Et le Cameroun, pourquoi pas?
Et puis il y a l'Algérie aussi, quand même.
L'Algérie,
c'est le super favori. Mais depuis hier soir.
L'Algérie, ouais. Depuis hier soir, super favori. En ne confondant pas les matchs de poule avec les
matchs. Voilà, les matchs d'élimination directe.
Les choses vont commencer. On ne va même plus voir l'Algérie, moi, je pense. Après,
on fait un pari. On fait un pari.
Ah ben, on fera
si
le pari.
L'Algérie tombe le Cameroun. Contre le Cameroun, l'Algérie sort.
Ça va d'accord.
Et on fait un pari. L'Algérie va vous manger cru.
Ah, va manger cru, c'est vrai.
On va les manger cru.
Ah, tu vas les manger cru.
On va les manger cru.
L'Algérie.
Voilà. Et on va voir le Chidor fait plus verte. Par rapport à Djebel Belmadi, c'est qui le vrai coach?
C'est Ariel Algérie.
Ah là là.
Et on verra.
Sadio, rappelez-vous.
Le rendez-vous est donné.
On doit enchaîner, Sadio.
3 secondes pour dire que ça chauffe en faveur du Ghana avec un tir sur la barre de Jordan.
Guinée-Bissau contre le Ghana. Voilà. Et ça le score entre le Bénin, justement, et le Cameroun.
Bénin-Cameroun, 0-0.
0-0. Vous restez avec nous, Narcisse Abada. Nous, on reste encore sur ce magnifique continent qui est l'Afrique avec cette édition 2019 de la CAN. Et je tiens à rappeler que nombre de réactions se font sur les réseaux sociaux, notamment avec la petite anecdote que vient de donner Narcisse Abada, malheureusement, sur le fait avec ce joueur à l'époque.
Les Africains sont pas solidaires.
Ah non, mais ça fait.
Non, mais c'est une réalité.
Ça fait un petit buzz.
C'est une réalité et ça.
Merci, Yacine.
Time Foot, spécial Cannes, la victoire.
Ouais,
ça fait sourire Bruno Aillot, brouillon, mais efficace, messieurs, la tête dans le sable, Narcisse.
C'est la première fois que je parle de cela. Hein.
Eh oui, parce que vous êtes à l'aise sur le plateau de Beurre FM depuis le début de la CAN, messieurs. Les Ivoiriens ont pulvérisé la Namibie. 4-1 en seconde période, se qualifiant par la même occasion pour les huitièmes de finale de cette édition 2019. Faut-il relativiser cette performance des Ivoiriens? Bruno, on t'écoute.
Peut-être, mais c'est pas pour autant que la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a beaucoup de problèmes tactiques.
Belle nation du football.
Dans cette Coupe d'Afrique des Nations, avec Seri qui joue un peu trop avancé à mon goût. Non, mais c'était la Namibie. La Namibie est l'équipe la plus faible qu'on ait vue depuis le début de cette CAN. Donc, c'est pas vraiment révélateur avec 2 buts dans les 15 dernières minutes. Mais c'est bien pour la confiance. Et puis, la Côte d'Ivoire, voilà, quand elle a tous ses talents qui arrivent à réciter, Cornet, Kodia, Boni, Nicolas Pepe, c'est forcément beau à voir. Max Alain Gradin, évidemment.
Si.
Zaha, oui. c'est forcément super.
Mais c'est vrai ce qu'est Bilal, juste de rajouter quelque chose par rapport à cette équipe ivoirienne. Ce qu'il a dit Bruno, il y a tellement d'individualités, mais sur le plan de l'organisation du jeu, on a l'impression que c'est une équipe qui n'a aucun fond de jeu, aucune tactique. C'est complètement décousu leur jeu, alors qu'ils ont un potentiel énorme, peut-être l'un des meilleurs effectifs, l'un des meilleurs effectifs de cette CAN. Malheureusement, ils nous laissent sur notre faim.
Narcisse, avec vous, concernant les Ivoiriens.
Ouais, je pense que les Ivoiriens, ils n'ont pas cette cohésion qu'il y avait, par exemple, au temps de Didier Drogba. Et là, on sent que c'est chaque joueur
qui premier Gaou, là.
De montrer que je tire l'équipe vers le haut. Et du coup, cette cohésion, il n'y en a pas. Et je ne serais pas surpris de voir les Ivoiriens sortir.
Rudy, on termine avec toi concernant cette sélection ivoirienne.
Moi, je dirais qu'il y a une évolution sensible dans cette nation, mais elle a toujours présenté en fait des talents super bons, vraiment des très bons joueurs, mais on n'a jamais trouvé une vraie cohésion. Alors que bizarrement, même quand on avait un leader charismatique comme Drogba, bizarrement cette sélection n'a pas gagné la CAN. Elle a gagné après, quand il y a eu une meilleure conjugaison des talents, et là, cette conjugaison, elle est présente, mais sur le plan tactique, déjà, on ne la voit pas. Et bizarrement, contre la Namibie, moi, je pense que la lecture qu'on doit avoir de ce match ne doit pas tenir compte du talent, mais plutôt de la faiblesse de la Namibie. D'ailleurs, les buts qu'ils ont marqués, c'était que des frappes, à 20 mètres. sans avoir besoin de rentrer avec un jeu de passe construit. C'était trop facile, quoi.
On termine avec toi avant la pause.
Oui, et puis de toute façon, la Côte d'Ivoire est vraiment en perte d'identité, il faut dire la vérité. Le fait de perdre Hervé Renard et Yaya Touré en même temps, ça leur a fait beaucoup de mal. Donc voilà, faut pas. De toute façon, la Côte d'Ivoire ne peut pas gagner la CAN tout le temps.
Ouais. Merci.
Ils sont en train de se refaire petit à petit une identité.
Vous restez avec nous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. On revient de suite après une dernière pause et on parlera des Fenech et aussi du Sénégal. À de suite.
Time Foot, spécial Cannes. Reviens dans un instant. Time Foot, spécial Cannes. Avec Bilal Nenman.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM pour la dernière partie. Un petit clin d'œil à Hugo, notre réalisateur de toutes ces émissions sur la tranche horaire de 18h-19h. Time Sport et aussi spécial Cannes, Time Foot. Sans oublier Nabil Fati, notre réalisateur à la vidéo. Vous pouvez aussi contempler toutes les images sur le compte Instagram, mais aussi sur la chaîne YouTube de votre émission. Et notamment pour écouter les fameux podcasts, les replays de ces émissions, le site internet beurrefm.net. Des petites infos concernant les matchs de 18h, Guinée-Bissau, Ghana avec Sadio.
Bien sûr, donc 43e minute, bientôt la mi-temps, toujours 0-0 pour Guinée-Bissau, Ghana.
Et le Bénin, Cameroun.
Même chose pour le Bénin, qui avait un coup franc intéressant, qui a failli...
Bruno, il est dessus.
Donc 0-0 toujours. 43e minute, bientôt la mi-temps.
Un coup franc, c'est assez saignant. Et franchement, je suis assez satisfait. Hein.
Ah, pour le moment.
Ça allait être compliqué, là.
Ça sera compliqué.
qu'on allait truc, mais on fait jouer. Le Cameroun, c'est assez rare.
T'inquiète,
pour être
la deuxième mi-temps.
Voilà, c'est Narcisse qui le dit.
La preuve, le Bénin, l'invité de cette CAN, il est en train de tenir.
C'est quoi le surnom du Bénin?
Après l'Algérie.
Le surnom du Bénin, c'est quoi, Bruno?
Il y a trop de nations, là, du foot dans ces studios. Grave, hein. Mais ça fait plaisir, rien que pour vous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM.
L'Algérie, ils ont été invités pour remplir.
Justement, eh ben on va voir l'Algérie. Allez, on s'attarde sur l'Algérie avec vous, chers auditeurs.
Time Foot, spécial Cannes, le duel.
Sur cette Coupe d'Afrique des Nations 2019, le Sénégal souffle sur le Kenya. Entre autres, 3-0, il faut le rappeler. Il souffle pas trop quand même. Et valide, du moins, son ticket, Rudy, pour les huitièmes de finale. Et l'Algérie aussi poursuit son sans faute. Yacine et termine en fanfare face à la Tanzanie. Là aussi, un carton plein, 3-0, et se qualifie donc pour ses huitièmes. Les hommes de Djamel Belmadi. Il était quand même un peu décrié. Ont-ils frappé les esprits, d'après vous? En tout cas, sur le continent, le vieux continent européen, oui. Djamel Belmadi est l'homme fort de ce début de cette CAN.
Exactement, mais il faut revenir un petit peu dans le contexte dans lequel Djamel Belmadi est arrivé à la tête de cette sélection algérienne, après le départ de Rabah Madjer, où la période fut quand même catastrophique pour l'Algérie. Hein. On a vu... je pense, le sélectionneur le plus décrié depuis l'histoire du football, hein, dans tous les pays du monde, pas uniquement.
Ah, quand même.
C'était sûr, parce que.
Belmadi, Porto, il est bien.
Exactement.
Même Vaïd, ça a été chaud pour lui.
Belmadi est arrivé dans un contexte assez particulier, sa nomination aussi, parce qu'il succède à Madjer, ancien joueur, lui-même ancien joueur de la sélection algérienne.
Légende.
Mais il arrive quand même avec un bagage, c'est-à-dire, il a bien. Affûter ses armes, même s'il a travaillé énormément au Qatar, mais il a gagné beaucoup de titres, soit à la tête des clubs qataris ou de la sélection. Et là, quand on voit la façon dans laquelle il dirige cette sélection, d'ailleurs le premier match, il met Brahimi sur la touche, c'est un signal fort qu'il donne à tout le monde, c'est uniquement c'est lui qui décide, et uniquement lui le boss. On a vu le résultat contre... hier contre la Tanzanie avec une équipe complètement remaniée à 95%, ça il faut le faire, il faut avoir le courage, même si cette équipe a été qualifiée, mais comme dit l'adage, on ne change pas une équipe qui gagne, mais il l'a pris et là il nous a montré une seconde équipe peut-être plus forte que l'équipe qui a joué les deux premiers matchs. Donc là il va se retrouver devant un dilemme, qui va jouer à la place de qui, surtout l'émergence d'un joueur,
une belle sélection.
D'Adamounès, qui a éclaboussé par son talent.
Les gars ont envie. Cette grinta.
Le retour en grâce de Slimani, qui a vécu une saison très difficile. Il a marqué, il a donné quand même deux passes décisives. Alors, c'est très bien pour la confiance et très bon augure pour la suite.
On redit quasi concernant cette sélection algérienne, les Fenech, avant de passer au Sénégal avec Salou Diouf.
Non, franchement, je suis content en fait. Enfin, je suis pour l'Algérie, c'est très bien parce
merci, Rudy. On sait que t'aimes les Fennecs, on sait.
Non, moi j'aime l'Afrique en général. Voilà. Mais non, après le passage à vide, déjà d'avoir manqué la dernière Coupe du Monde, après la Coupe du Monde de 2014, qui était une très bonne Coupe du Monde. C'est bizarre, c'est-à-dire beaucoup d'équipes africaines qui arrivent à avoir un top, elles n'arrivent pas à rester sur leur pic et elles redescendent. Bon, ça a été salutaire, peut-être parce qu'il fallait que Madjer s'en aille. Et ce fut le cas. Et là aussi, c'est un pincement de cœur. Parce que comment tu dis, c'est un peu comme les Maradona, des grands joueurs qui ont la capacité de devenir des grands entraîneurs, qui ne le deviennent pas, peut-être
Rabah Madjer, ça avait déjà très mal commencé. Moi, il y avait une phrase qui m'avait marqué. Il avait dit, moi, j'ai pas passé mes diplômes d'entraîneur. J'ai pas entraîné depuis 2001, mais j'ai appris mon métier d'entraîneur dans les studios.
Mais justement, c'est un peu ça le problème, c'est-à-dire que les entraîneurs qui ont été des grands joueurs ont souvent tendance à avoir une exigence un petit peu trop importante et une trop haute estime d'eux-mêmes, et ils attendent en fait que cette exigence soit la même des joueurs. Donc il y a un problème de patience qu'ils n'ont pas. Donc peut-être que c'était mieux pour lui, surtout les profils d'anciens joueurs techniques, etc. Bon, peut-être Zidane c'est encore autre chose.
Il faut juste revenir un petit peu dans le contexte. Rabah Madjer, c'était sa troisième expérience avec les Fennecs. Hein.
Et
celle-là, elle rentrait plutôt dans un cadre un peu bizarre. Il a soutenu la quatrième candidature du président de
Bouteflika.
Et l'ont compensé. Voilà, donc c'est
quelque chose à dire aussi sur Belmadi. C'est bien en fait d'avoir à nouveau un entraîneur qui incarne en fait une sorte de charisme, en fait peut-être un petit peu à l'ancienne. Et peut-être que cette Afrique peut l'accepter. Ce genre d'entraîneur charismatique, en Europe, on l'accepte plus. Peut-être c'est lié à la mentalité, etc. Mais en Afrique, peut-être qu'on peut encore l'accepter. Et c'est intéressant d'avoir le retour de ce type d'entraîneur-là. Et on en voit effectivement les fruits sur cette équipe qui accepte en fait l'exigence que peut poser en fait que fait peser donc Belmadi sur cette équipe et s'y soumettre. Et on en voit effectivement les résultats. Moi, je pense que c'est l'équipe. Une des équipes favorites, avec en plus des joueurs qui reviennent.
Narcisse.
Slimani, c'est sûr, on l'avait depuis son...
Ah bah non, on l'écoute, notre invité ce soir.
Et surtout à Damounas, franchement, un doublé et tout, c'est
ouais, je pense, comme a dit Rudy, l'Algérie, c'est une équipe favorite, mais comme je disais tout à l'heure, on sait généralement comment ça se passe au niveau de cette compétition. Une petite équipe peut enlever facilement, mais franchement... je vois beaucoup plus, comme je le disais tout à l'heure, en dehors de l'Égypte, aucune équipe, que ce soit l'Algérie, le Maroc, ne peut faire le poids contre le Cameroun. S'il s'agit
Bien sûr, pourquoi pas. Il n'y a pas de problème.
C'est le cœur qui parle.
Non, le cœur qui parle, moi aussi, peut-être. Nation du football, le Cameroun.
Déjà, il faut battre le Bénin aujourd'hui.
Pour rappeler. Oui, le Bénin. Justement, on a un Béninois, je crois, avec nous.
Le Cameroun a toujours été comme ça en face.
Merci. Alors, Bruno, avant de passer, à revenir en Europe. Parler de la Liga.
Alors franchement, moi je trouve honnêtement, depuis que je suis l'équipe d'Algérie et depuis qu'elle a gagné la CAN en 90, moi je me mouille, je trouve que c'est la meilleure équipe d'Algérie que j'ai jamais vue et que j'ai jamais suivie professionnellement. Je trouve que tout y est, la discipline, tactiquement, les joueurs, Belaïli, Benacer, Bagdad Bouneja qu'on connaît pas en Europe, qui a fait un super tournoi. Que ce soit Aïssa Mendy, moi aussi
sans oublier Delors.
Delors qui a été titulaire hier et qui a fait son match. Je trouve que tactiquement ils sont disciplinés et en plus ils ont une vraie identité de jeu. C'est un plaisir de les suivre et j'espère qu'ils vont faire une bonne.
Salut pour terminer. Justement, avant de parler de la Liga,
la transition est très très bonne parce qu'en fait c'est surtout pour Andy Delors parce que beaucoup de personnes ont émis des doutes sur justement son envie. On a parlé d'opportunisme,
acculturation.
Exactement, culture. Quand tu le regardes hier sur sa combativité, sur son envie, tu te dis que ce mec-là, en fait, il a un drapeau algérien greffé sa peau. Quoi. C'est fou.
C'est comme s'il avait toujours été algérien.
Exactement. Tu peux pas douter de son engagement, en fait.
Je voulais juste mentionner quelque chose. Ça fera honneur au championnat africain. Il faut savoir qu'aussi, il y avait un jeune sur le terrain qui avait à peine 19 ans. C'est le milieu récupérateur Boudaoui. Magnifique.
Pas mal.
Et c'est un pur produit du championnat d'Algérie. Donc, comme quoi, en Afrique, on peut encore produire de véritables pépites.
Alors, dernière partie de cette émission qui est Tam Foot Edition Cannes 2019 avec de la Liga.
Time Foot, spécial Cannes, le mode pressing.
T'inquiète pas, Rudy, hein, tu sais, il y a de la Liga parce que justement, on est à Paris. Et qui dit Paris dit le grand Paris Saint-Germain de Thomas Tuchel, n'est-ce pas? Yes. Salut Diouf. La pilule n'est toujours pas passée du côté de l'Espagne, Narcisse, avec Javier Tebas qui ne veut pas revoir Neymar dans le championnat espagnol. De quoi se mêle Javier Tebas pour vous, Rudy?
J'ai même envie de commencer par un chip, sincèrement, ouais. en faisant honneur à mes racines africaines. Non, sincèrement, c'est. Lui, il fait du lobbying, de toute façon. Il fait du lobbying pour les
Neymar ne veut plus revenir.
Pour les grands clubs. Et même, à un moment donné, on a même eu l'impression qu'il faisait du lobbying pour le Real Madrid. Oh là là. C'est quand même. Ouais, c'est quand même. En tout cas, la question se pose. C'est assez étonnant de le voir prendre. Parce que lui, il est là pour tenir aussi, pour tenir les intérêts. On le voit même réagir sur le fair play financier, etc. On l'a vu réagir. Par contre, on l'a vu se taire sur l'annonce de la sélection, plutôt de. Lorsque. Comment il s'appelle ? L'ancien sélectionneur là de l'Espagne avait été annoncé du côté de Real Madrid, etc. Voilà, Lopetegui à l'époque. Là, par contre, il s'est tu. Donc, si effectivement les présidents de région de fédération sont des lobbyistes, à ce moment-là, il faut le dire. Mais lui, il a rien à dire. Oui, ben en tout cas sur l'aspect du retour de Neymar, c'est plutôt ouais. au Barça de se prononcer et pas au président.
On dit que Neymar serait dans les papiers.
De toute
justement.
Façon, ce serait aussi dans l'intérêt
bientôt
de la Liga
arrivé.
De voir revenir Neymar, un petit peu plus remplir les stades, les droits télé, ouais. etc. Parce que les droits télé.
On est rempli aussi à Paris, à les stades. Et en France.
Ils veulent refaire la concurrence sur les droits télé anglais. Donc ouais. c'est incompréhensible sa réaction.
On perd de l'argent du côté de l'Espagne. Yacine, avant la fin.
Ou peut-être aussi, c'est une stratégie de sa part aussi. Donc il ne faut pas trop. Je pense qu'il est assez intelligent de comprendre que le retour de Neymar en Liga espagnole va donner encore beaucoup plus d'importance au droit télé comme tu le dis. Mais après, ça reste que de la parlotte. Hein. Dans les coulisses, les choses sont en train de s'accélérer.
Il est décrié.
Bah, Yacine, toi, tu connais les paralotes. Dis-nous, qu'est-ce qui se passe dans les coulisses ouais,
Je pense que Neymar est sur le chemin de revenir à Barcelone.
Moi, je pense pas.
Allez, salut. Un petit mot avec.
On se parle d'ici la fin de semaine.
Ouais. Concernant le score.
Bah c'est limitant déjà pour
sur les deux matchs. Sur les deux 18h.
Matchs. Guinée-Bissau, Ghana 0-0.
Et aussi Cameroun, le Bénin, Cameroun.
Le Bénin, enfin Bénin, Cameroun, toujours 0-0.
Ouais. Et
Non,
c'est la mi-temps. Ah, et c'est une grosse déception pour l'instant, c'est les 0 buts marqués à chaque fois, les 0-0, 0-0.
Déception si Neymar.
On voit quand même des bons matchs.
Ouais,
déception si Neymar part.
Grosse déception si Neymar part. Parce que c'est quand même un moteur de cette Ligue 1. Les gens regardent la Ligue 1 aussi pour Neymar. En province, les gens vont au stade pour voir Neymar, Mbappé. Ouais. Oui, grosse déception, forcément.
Mais il partira pas.
Neymar part. On est tous déçus.
Je pense qu'il partira, ça c'est sûr. Ouais. C'est Neymar partira.
Il n'a plus envie.
Il n'a plus envie de jouer.
Non mais après que lui n'ait plus envie de jouer, mais le problème c'est qu'il y a ce contrat qui le lie et aussi la volonté de Paris Saint-Germain de vouloir le garder. Et en plus, là le Barça va enregistrer par exemple Griezmann.
On termine avec Narcisse.
Là le Barça va enregistrer Griezmann à un montant assez conséquent et ils n'auront pas forcément les
merci
pour
Rudy.
Aller chercher Neymar, sachant que le PSG rapidement. Ne va pas vouloir le vendre en dessous de 250
Rudy,
millions.
Ce sont les hommes qui signent les contrats.
Eh oui.
Où, tout peut se passer. Ça, c'est sûr.
Voilà.
Neymar, il va rentrer.
Ça, c'est bien dit.
Mais Barça n'a pas l'argent.
Narcisse Abada, ancien international camerounais, merci d'avoir été avec nous. Et aussi, merci à tous les auditrices et les auditeurs de nous avoir accompagnés. À demain.
Beurre FM, 18h, 19h, Time Food Special Game. Avec Bilal Nedman sur Beurre FM. Numéro 1 sur le foot africain.